avant-ministre, j'aurais verset de l'Épître aux Hébreux, et donc si vous avez votre Bible, je vous encourage à l'ouvrir dans l'Épître aux Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Et ce que je fais, c'est que je choisis un verset dans chaque chapitre. Et aujourd'hui, on va voir chapitre 5 et chapitre 6. L'Épître aux Hébreux donc, s'adresse à des Hébreux au départ, donc à des Juifs, mais pas n'importe quel Juif, c'est des Juifs qui avaient cru en Jésus. On les appellerait aujourd'hui des Juifs messianiques. Et un certain nombre d'entre eux croyaient de tout cœur et avaient vraiment donné leur cœur à Jésus, et d'autres croyaient qu'il était le Messie, mais c'était plutôt intellectuel, et ils voulaient en même temps conserver leur rite judaïque. Et cette épître est là pour leur montrer que Jésus-Christ va plus loin que les rites judaïques, il accomplit toute la loi de Moïse, et qu'il faut regarder à Christ et non pas regarder derrière aux traditions humaines et aux traditions religieuses. Au chapitre 5, on va regarder les versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ce passage s'adresse à certains croyants qui n'avançaient pas dans leur foi. Ils stagnaient, ils restaient des bébés alors qu'ils auraient dû devenir des maîtres. Ils auraient dû, avec tout ce qu'ils avaient reçu comme enseignement de la parole de Dieu, enseigner eux-mêmes les autres. Ils étaient normalement capables d'enseigner d'autres et là, ils ne connaissaient même pas le béaba. C'est un petit peu si on demandait à un professeur d'université d'enseigner un cours alors qu'il ne sait même pas lire ou écrire, ou il ne connaît pas l'alphabet. Donc il faut commencer au départ, il faut d'abord apprendre à lire et écrire. Et là, ces croyants avaient une foi très superficielle et ils n'avaient pas fait de progrès. Ici, il parle du lait et de la nourriture solide, on pourrait dire de la viande. C'est un verset assez connu des chrétiens. Est-ce que tu en es au lait ou est-ce que tu en es au beefsteak, hein? Le beefsteak, c'est vraiment pour les chrétiens solides, mûrs, et le lait, c'est pour les chrétiens plus débutants. Voilà. Et on est tous débutants dans la foi au départ. C'est-à-dire, quand on découvre la Bible, quand on ouvre la Bible pour la première fois, ou quand on entend l'Évangile, on débute. Même si on a beaucoup de connaissances par ailleurs et qu'on a des diplômes ou je ne sais pas quoi, on est débutant. Mais petit à petit, en lisant la Bible, en méditant la Bible, en écoutant des messages dans les églises, on doit progresser dans la foi. Jusqu'à pouvoir soi-même encourager les autres avec la Bible. Pouvoir, lorsqu'un frère ou une sœur est en difficulté, pouvoir lui dire une parole de Dieu qui vient de la Bible. Ou lorsque quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, pouvoir lui partager son témoignage, sa foi. Mais là, il n'en était même pas là. Il n'avait pas du tout avancé. Et l'auteur de l'Épître leur fait un reproche, hein, c'est vraiment un reproche. Il dit, vous devriez être des maîtres et vous en êtes encore au lait pour bébé. Alors, à qui il s'adresse dans le contexte? Dans le contexte, il s'adresse donc à ces Hébreux qui n'arrivaient pas à admettre que Jésus ait accompli toute leur loi. Les Juifs avaient déjà à cette époque-là résumé la loi en 600 commandements. C'est-à-dire, si vous prenez toute la loi que Moïse a révélée dans le livre de l'Exode et Lévitique, ils l'ont mis en 613 commandements qu'il faut appliquer tout le temps, toute la vie, tous les jours. Et ils avaient à cette époque-là encore le temple à Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils allaient au temple offrir des animaux en sacrifice pour leurs péchés. Il y avait des sacrificateurs ou des prêtres qui officiaient encore à cette époque-là. Ils ont disparu vers l'an 70 lorsque les Romains ont dévasté Jérusalem. Ils ont détruit le temple entièrement. Et depuis, le temple n'a pas été reconstruit. À sa place, aujourd'hui, il y a une mosquée. Et les Juifs, les Israéliens aimeraient vraiment retrouver leur temple, mais pour l'instant, cela ne leur est pas permis. Mais là, ces Hébreux avaient cru en Jésus, mais en même temps, ils voulaient continuer à faire des sacrifices d'animaux. Or, l'Évangile, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que Jésus est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire celui qui met fin à tous les sacrifices qu'il y avait d'animaux dans le temple. Il est lui-même le sacrifice suprême et définitif. Lorsqu'il est mort, crucifié, il n'est pas juste mort en martyr. Il n'est pas juste mort parce que les Romains ou les chefs religieux l'ont eu. Non, il est dit qu'il a donné sa vie. C'est lui-même qui a accepté cette mort. Il aurait pu se sauver. Il aurait pu, devant Pilate, échapper à la condamnation à mort. Pilate voulait le relâcher. Mais Jésus ne s'est pas défendu et il est allé comme une brebis muette, disait la parole, hein, disait la prophétie. Il est allé jusqu'à la boucherie, jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'en mourant pour nous, lui, le Fils de Dieu, le Messie, il portait nos péchés. Mais ces Hébreux n'arrivaient pas à accepter ça. Ils voulaient croire que Jésus était extraordinaire, mais ils ne voulaient pas voir qu'il avait mis fin quelque part à tous les sacrifices du temple, que les sacrifices étaient accomplis, achevés. Maintenant, il fallait passer à autre chose. Le pardon total des péchés était offert et eux, ils n'acceptaient pas cela. Ils restaient en arrière dans leur tradition. Ils voulaient s'attacher au rite extérieur. Ils voulaient mériter leur salut. Et l'auteur leur dit, mais vous ne comprenez pas depuis le temps que je vous l'explique, on ne peut pas mériter le salut. C'est par la foi. C'est un cadeau qu'on reçoit par la foi. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite parce que c'est trop élevé, c'est trop saint. Qui peut dire, ça y est, j'ai mérité le salut? Il faudrait être parfait pour dire ça. Qui peut dire, moi, ça y est, je sais que j'irai au ciel, c'est certain. Avec toutes les bonnes œuvres que j'ai faites, vraiment avec toutes les prières et les dons que j'ai faits aux œuvres humanitaires, je pense que Dieu va m'accepter au ciel. Si vous croyez ça, c'est une illusion. Pour être accepté au ciel, il faut être sans péché. Il faut être juste, absolument juste. Et il n'y a qu'un seul moyen dans la Bible pour être juste. C'est la foi au Messie Jésus qui nous lave par sa mort et sa résurrection par son sang précieux. Aujourd'hui, et depuis des siècles, il y a des chrétiens aussi qui sont restés bébés, d'une certaine façon, en gardant des traditions, des statues, des crucifix, des images, des rites, et ils s'attachent à ces choses-là en disant, si j'ai ça, Dieu va me bénir. Mais la foi, c'est autre chose. La foi, c'est justement sans voir. C'est le contraire de la vue. Et c'est vrai que c'est difficile pour nous, êtres humains. On aime bien toucher, on aime bien voir. Est-ce que je ne peux pas voir Dieu? Est-ce que je ne peux pas voir Jésus? Non, on ne peut pas le voir. Mais on a une chose qu'on peut voir quand même. C'est la parole de Dieu, la Bible. On peut lire la Bible. Et vous savez que la Bible a été inspirée par Dieu. C'est Dieu qui a insufflé sa volonté, sa parole à des prophètes. Et la preuve, il y a plusieurs preuves, mais c'est que c'est un livre extraordinaire d'abord, qui change les vies, mais c'est aussi un livre véritable, vrai, qui est confirmé par beaucoup de points, notamment l'archéologie, toutes sortes de choses. Alors aujourd'hui, nous devons être des chrétiens, si nous sommes chrétiens, mûrs. Apprendre la maturité. C'est ça qu'il dit, vous devriez être des maîtres. Alors qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est mûr? Il dit, verset 14, la nourriture solide est pour les hommes fait ou parfait dans d'autres versions. Alors quand il dit fait ou parfait, il ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne fait plus aucune faute jamais de sa vie. Non. Le mot là qu'il utilise dans l'original, c'est quelqu'un d'achevé, de complet, quelqu'un d'accompli. Qui est vraiment dans la plénitude de Dieu, dans la, voilà, il est complet. On dit par exemple qu'un sportif est complet. Je ne sais pas si vous aimez le football. On dit un footballeur, il est complet. Ça veut dire il peut à la fois marquer des buts, défendre, courir vite, faire des têtes. Celui-là, il est complet, il sait tout faire. Eh bien, un chrétien complet, c'est un chrétien qui a les grâces et toute la plénitude du Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Galates, il nous est dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, hein, la fidélité, etc. Un chrétien fait, accompli, c'est un chrétien qui a toutes ces choses, toutes ces grâces qui sont dans sa vie, qui sortent de lui. Et un chrétien comme ça, il bénit les autres, il est une bénédiction, il a une influence positive, hein, et il glorifie Dieu, il obéit à Dieu. Mais la maturité, ça prend un petit peu de temps quand même. Un bon vin pour qu'il soit mûr ou un bon fromage, il lui faut un certain temps de maturation. Et un chrétien aussi, c'est pas en 10 minutes qu'on devient, ça y est, je suis un chrétien d'expérimenté, mûr. Non, il faut un certain temps d'apprentissage. On est débutant et on va à l'école du Seigneur, on est un disciple et on apprend du Seigneur. Mais Dieu ne veut pas que ça dure 25 ans les études, avec lui en tout cas. Dieu veut qu'on apprenne. Chaque fois qu'on entend la parole, qu'on la lit, Dieu veut qu'on avance. Et il y a des chrétiens, ils sont sur le banc de l'école depuis 25 ans, 30 ans, et ils n'apprennent rien. Ça rentre par là et ça sort par là. Et ils restent immatures. L'immature ici, c'est celui qui n'a pas l'expérience, verset 13, de la parole de justice. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? C'est quelqu'un qui n'a pas expérimenté la parole de Dieu. Donc peut-être qu'il connaît la Bible, connaît des versets de la Bible, il connaît des choses sur la foi chrétienne, des vérités, mais il ne les a pas expérimentées personnellement. Quelque part, il n'a pas mis la Bible à l'épreuve. La Bible est un livre de vie. C'est pas un livre pour intellectuels, bien que un intellectuel puisse y trouver vraiment de quoi apprendre plein de choses. Hein, c'est tellement riche. Mais le but de la Bible, c'est un livre de vie. Si on ne la vit pas, ben ça ne nous apporte pas grand-chose. Ça nous laisse avec une certaine connaissance qui ne mène pas à grand-chose. Dieu veut qu'on vive. Et un chrétien immature, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu la Bible. Il connaît les vérités, mais il n'y a rien qui se traduit dans sa vie quotidienne. Combien il y a de chrétiens comme ça, de chrétiens entre guillemets, hein? Ils peuvent vous dire le credo, ils peuvent vous dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, ils vous donnent des leçons de morale même. Ah non, ça c'est pas bien. Un chrétien ne fait pas ça. Et dans leur propre vie, il y a des péchés graves, évidents. Ils ne mettent pas en pratique, ils n'expérimentent pas la parole de la justice. Alors que la maturité, c'est justement de vivre la Bible, de l'avoir comme livre de chevet, hein? Un livre de chevet, c'est un livre qui nous accompagne tout le temps. Ce n'est pas juste un livre qu'on lit avant de s'endormir, hein. Un livre de chevet, c'est une expression pour dire qu'il est là. On s'y réfère tout le temps. On l'étudie, on réfléchit. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible? Qu'est-ce qu'il veut me dire à moi? Comment je dois appliquer cette parole? Et là, on devient un chrétien mûr. L'homme fait, verset 14, sait discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui cherche le bien selon Dieu et qui veut éviter à tout prix le mal aux yeux de Dieu. Et donc, il cherche, là encore, hein, dans la parole de Dieu, il se laisse guider par l'Esprit de Dieu qui est en lui, s'il est chrétien, et il va chercher à progresser dans la sainteté. Si Dieu sauve, nous pardonne nos péchés, c'est pas pour qu'on continue dans le péché. C'est très clair dans les Écritures, hein. L'apôtre Paul le dit plusieurs fois. Est-ce que Dieu nous a sauvés pour qu'on continue dans le péché? Loin de là. Dieu nous sauve, nous pardonne pour qu'on arrête de pécher, pour qu'on ait une vie de plus en plus sainte. Et une vie sainte, ce n'est pas une vie retirée dans un monastère sur l'île de Pâques ou je ne sais pas où, en Lozère. Une vie sainte, c'est une vie dans la vie de tous les jours. Mais au lieu de choisir le péché, au lieu de tomber dans toutes les tentations, on reste saint. Séparé du mal, c'est ça que ça veut dire saint, hein, la séparation d'avec le mal, et on est rempli de Dieu dans tout ce qu'on fait, à son travail, dans son couple, avec ses enfants, avec ses collègues, avec ses voisins, partout, on est saint, rempli de Dieu. Ça, c'est la maturité chrétienne. Alors qu'un chrétien immature et qui reste bébé, eh bien, il va avoir un comportement enfantin. Et ça va se voir, par exemple, dans l'Église. C'est ce que Paul, dans Galates, appelle les œuvres de la chair. Ça va être beaucoup de choses émotionnelles, beaucoup d'égo. La personne veut se mettre en avant, beaucoup d'orgueil, de querelles, de jalousie, de disputes. C'est quelqu'un qui va vraiment être agressif avec tout le monde. Quelqu'un qui va vouloir dominer les autres, qui veut le pouvoir, qui veut l'argent. Aussi, c'est l'immoralité, la débauche. Tout ça sont des fruits hein, ou des œuvres, malheureusement, de l'immaturité. Quand on est adulte en Christ, quand on est complet, fait, ce qui sort, c'est l'amour, la paix, l'obéissance à Dieu, la soumission, l'humilité avec les autres, le pardon. Voilà, ça, ce sont des marques de quelqu'un qui est adulte en Christ. Et c'est ce que voulait enseigner ici hein, l'auteur de l'Épître aux Hébreux à ses croyants. Il dit, il est temps de sortir de votre infantilisme et d'avancer, de progresser dans la foi, de mettre en pratique ce que vous apprenez au fur et à mesure. Et nous qui avons des réunions régulièrement, nous avons des enseignements de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on se gargarise avec en disant « Oh là là, nous avons de la connaissance » ou est-ce qu'on dit « Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Je suis toujours vraiment frappé par l'histoire du petit Samuel, ce petit enfant qui a été consacré à Dieu et qui a été placé dans le temple par sa mère parce qu'il était un enfant miraculeux, elle était stérile jusque-là. Et un jour, Dieu se révèle à Samuel et il l'appelle dans la nuit. Samuel est en train de dormir et il entend « Samuel, Samuel !» Alors il se lève et il va voir le souverain sacrificateur parce qu'il travaillait au temple avec le souverain sacrificateur. Il dit « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Alors il dit « Mais pourquoi tu me réveilles ? Je t'ai rien demandé, laisse-moi dormir. » Alors bon, il se recouche, Samuel se recouche, la voix « Samuel, Samuel !» Il va réveiller le souverain sacrificateur qui dit « Mais je n'ai rien dit, pourquoi tu as des rêves ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et finalement, le souverain sacrificateur comprend. Il dit « Mais c'est peut-être l'Éternel qui te parle. La prochaine fois que tu entends sa voix, tu dis « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et c'est ce qu'a fait le jeune Samuel lorsqu'il a entendu la voix « Samuel, Samuel !» Il s'est réveillé, il a dit « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Dieu lui a révélé des prophéties et sa parole. Nous devons avoir ce même cœur que Samuel. « Seigneur, parle-moi. » Car je veux t'écouter, je ne veux pas juste dire « Ah, c'est beau, c'est bien », non, je veux t'écouter. Et ce qui est intéressant, c'est que écouter et obéir, ce sont des mots très très proches, particulièrement en grec et en hébreu, hein, les langues de la Bible. D'ailleurs, obéir, ça se dit écouter, et écouter, ça se dit obéir, c'est la même chose, c'est ce que Dieu veut de nous. Dans le chapitre 6, nous voyons quelque chose de différent. J'avais parlé une autre fois du passage de ceux qui ont goûté au Saint-Esprit et qui sont tombés, donc je ne vais pas prendre ce passage-là. J'ai pris le verset 18-19 qui me touche beaucoup. La seconde partie du verset 18 du chapitre 6. Nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Je m'arrête là. L'ancre de l'âme. Quelle belle expression. À quoi sert l'ancre ? L'ancre est un outil indispensable du marin pour empêcher son bateau de dériver et de s'écraser contre le rivage ou contre des rochers. Un bateau sans ancre est en danger. Hein. Il faut toujours vérifier quand vous montez sur un bateau, y a-t-il une ancre qui fonctionne ? Vous en aurez besoin à tout moment. Et l'encre a une particularité, c'est que quand on la jette, elle disparaît au fond de l'eau. Et elle passe de l'autre côté, hein, dans un monde invisible, sous l'eau, et ensuite elle s'accroche, et c'est par là qu'on peut être certain d'être bien arrimé sur le fond marin. Pourquoi avons-nous besoin d'une ancre? Eh bien parce que notre bateau, notre vie, est en danger de mort. La mort, ce n'est pas simplement la mort physique dont je parle là, c'est la mort éternelle, la perdition. Jésus en a parlé plusieurs fois, il a appelé la géhenne, hein, c'est-à-dire un lieu de tourment, un lieu de souffrance, un lieu de jugement. Et cela nous guette tous, parce que nous sommes tous pécheurs au départ. On peut naviguer paisiblement toute sa vie, avoir une vie normale, comme on dit. Et puis, on peut finir brisé sur un récif et aller en enfer. On peut penser qu'on a une vie correcte et être perdu pour l'éternité. La Bible dit, hein, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il ne faut pas se baser sur ce que nous pensons ou croyons. Il faut se baser sur ce que Dieu dit, car c'est lui qui va nous juger à la fin. C'est lui le grand juge, le juge suprême, qui sera absolument juste, absolument équitable. Il ne jugera pas sur un oui-dire ou sur notre apparence. Il va juger nos cœurs et nos vies et nos œuvres. Mais si on fait déjà le compte aujourd'hui, si Dieu devait juger ma vie et mes œuvres, je serais perdu pour l'éternité. Je serais condamné. Parce que devant le Dieu juste et saint, je ne tiendrai pas 5 minutes. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une ancre sûre et solide, qui est une espérance, hein, il dit, notre espérance qui est comme une ancre de l'âme. La mort, ce n'est pas simplement un changement d'état dans la Bible. Ce n'est pas qu'on passe de la vie à la mort. La mort dans la Bible, c'est un jugement. Le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible. À cause de nos péchés, nous mourons. Et la mort n'était pas au départ dans le plan de Dieu. Lorsque Dieu a créé la terre et le ciel, il a fait quelque chose de magnifique, de merveilleux. On a encore des beaux restes là, hein, sur la terre. Et il n'a pas fait la mort. La mort est venue comme un jugement sur la désobéissance et la rébellion de l'homme. Et c'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'on a besoin d'une ancre pour affronter cette mort. Quel est ce voile dont il parle, hein? Il dit « Elle pénètre au-delà du voile », verset 19. Alors les Juifs qui lisaient ça, eux, ils ont tout de suite compris. Mais nous, on n'a pas forcément leur arrière-plan. Eux, ils allaient au temple. Et dans le temple, il y avait 3 parties. Il y avait le grand parvis. Donc le temple avait une enceinte, hein, des murs assez hauts, et on entrait tout de suite dans le parvis. Le parvis, c'était une grande surface avec plusieurs salles pour les femmes, pour les non-juifs, etc. Il y avait différents statues là, et pas des statues, mais des différents parties, pardon, ce serait plus juste. Et ensuite, il y avait au milieu du parvis, un bâtiment qui était le temple à proprement parler. Et dans ce temple, il y avait 2 pièces, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint, les prêtres pouvaient s'y rendre, pas le juif moyen, il fallait être prêtre pour pouvoir rentrer dans le lieu saint. Et là, il y avait un chandelier en or, magnifique, qui symbolisait la lumière de Dieu. Il y avait une table avec des pains qui étaient changés tous les matins, 12 pains pour les 12 tribus d'Israël. Et puis il y avait l'autel des parfums qui était une sorte de coffre sur lequel on faisait brûler de l'encens qui symbolisait les prières d'intercession pour nos péchés. Et puis il y avait un voile qui barrait l'entrée du lieu très saint. Mais c'était pas ça. Hein? C'était un voile qui avait plusieurs centimètres d'épaisseur. Ils avaient cousu plusieurs épaisseurs de tapis pour que ce voile ne puisse pas être franchi comme ça. Il fallait vraiment le vouloir pour passer de l'autre côté. Et une fois par an, le souverain sacrificateur avait le droit de passer de l'autre côté. Mais pas n'importe comment. Il passait le jour du Yom Kippour. Vous avez peut-être entendu parler, hein, du jour du grand pardon, le Yom Kippour chez les Juifs. Cette fête-là, il s'aspergeait d'abord lui-même du sang des animaux. Pourquoi ? Parce que le sang couvrait ses péchés. Et il rentrait avec du sang aussi, dans une coupe, il passait le rideau et là, il y avait le fameux arche de l'Alliance. Hein, si vous aimez Indiana Jones, vous connaissez bien ça, l'Arche de l'Alliance, ce coffre avec un couvercle et dessus des anges taillés hein, qui gardent la présence de Dieu. Parce que c'est dans le lieu très saint que se trouvait la présence pure et sainte de Dieu. Et il rentrait dans ce lieu et là, il aspergeait le couvercle avec du sang et pendant un an, les péchés du peuple étaient couverts, pardonnés, couverts. Mais imaginez si vous étiez souverain sacrificateur. Vous n'êtes jamais rentré dans cette pièce et une fois par an, et vous dites, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a Dieu qui est là. Vous rentrez, vous ne voyez pas Dieu parce que Dieu est esprit, mais Dieu est présent. Ce voile, hein, symbolise justement cette séparation entre nous et Dieu à cause de nos péchés. Ce voile, c'est aussi un symbole de la mort. Qui nous sépare, qui nous condamne, qui pèse, nous sommes tous mortels. Et c'est une malédiction. Quand on va aux enterrements, on se dit, mais pourquoi la mort? Pourquoi est-ce qu'on doit mourir si tôt? Pourquoi est-ce que tout le monde meurt? Et l'encre, là, elle pénètre au-delà du voile. Alors, il faut regarder un peu d'autres passages de la Bible là. D'abord dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19. La Bible s'explique elle-même. Hein. On n'a pas besoin d'inventer des explications. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, le fameux lieu très saint là, dont je vous ai parlé, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, de son corps. Alors pourquoi il dit que son corps est le voile ou représente le voile ou le voile représente son corps? Il faut aller dans Matthieu 27, 51, l'évangile selon Matthieu, chapitre 27. Lorsque Jésus est mort, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et il y a trois évangiles qui relatent ce fait, hein. Matthieu, Marc et Luc. Ce n'est pas Matthieu qui a rajouté quelque chose. Hein. Matthieu 27, 51. On va lire verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri, il est sur la croix là, à ce moment-là, et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Lorsque Jésus est passé par la mort à notre place, parce qu'il est mort à notre place, lui, il n'aurait pas dû mourir, lui, il était sans péché. Mais lorsqu'il est passé par la mort pour nous, il a traversé ce voile. Et il a déchiré le voile. Désormais, Hébreux 10 l'a dit, hein, la route est ouverte. La route nouvelle par le sang de Jésus. On a accès à Dieu désormais. On n'a pas un voile qui nous cache. On n'a pas à craindre la mort. Tout ça s'est déchiré. Le Seigneur est passé pour nous au travers de ce voile. Et la foi, c'est cette, et l'espérance, hein, c'est cette encre qui passe à travers. Comme lorsque vous jetez l'ancre, elle disparaît dans l'eau. Lorsque vous mettez votre foi au Seigneur Jésus-Christ, vous mettez votre foi aussi pour votre vie éternelle. C'est-à-dire, moi je crois que quand je vais mourir physiquement, je vais entrer dans la présence de Dieu et je vais vivre éternellement avec lui. Pourquoi je crois cela? Pas parce que je suis pasteur, pas parce que je suis un bon chrétien ou que j'ai fait ci ou j'ai fait ça, non. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Il est mon ancre, il est mon sauveur, il m'a sauvé, pardonné. Et donc lui, il est passé à travers la mort. Il y a souvent des gens qui disent, ah, mais personne n'est jamais revenu de la mort. Hein? Alors comment on pouvait croire à la résurrection? Mais il y a quelqu'un qui est revenu de la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est montré à plusieurs dizaines de témoins après sa résurrection. Il y avait même Thomas qui ne croyait pas à la résurrection et qui finalement a cru parce qu'il a vu le Seigneur vivant. Et il y avait l'apôtre Paul qui était un juif ennemi des chrétiens. Il est persécuté à mort et lui aussi, il a vu Jésus ressuscité. C'est ce qui fait qu'il a changé du tout au tout. Il est devenu un des plus grands apôtres, défenseur de la foi chrétienne. Oui, quelqu'un est revenu de la mort, c'est Jésus-Christ. Et il est notre ancre, il est notre espérance. Le voile est déchiré. Maintenant, on peut être en communion avec Dieu. Qu'est-ce qui nous bloquait? C'était nos péchés, bien sûr. Dieu saint ne pouvait pas se révéler à nous comme il le voulait à cause de nos péchés. Mais Christ a pris nos péchés sur la croix, sur le bois, pour qu'on soit débarrassé du péché. Et désormais, on peut entrer. Comment on entre dans la présence de Dieu? D'abord, on entre par la prière. Quand on prie, on a le droit d'entrer dans le lieu très saint. Il n'y a plus de temple aujourd'hui. Même cette église n'est pas un temple. Où il est le temple de Dieu? Eh oui, c'est notre corps, notre cœur. La Bible dit aux chrétiens, vous êtes le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Quand on s'en va, le mercredi soir, quand tout le monde est parti, ce n'est plus vraiment une église ici. C'est un local. Parce que l'église, c'est chacun qui a le Saint-Esprit. Et donc, quand on prie, on peut avoir accès à la présence de Dieu dans la prière et parler avec Dieu face à face, quelque part, d'une certaine façon. Mais cette ancre-là, elle est pour après la mort. C'est notre espérance. Les Juifs de cette époque n'avaient aucune assurance sur la vie après la mort. Ils disaient, on ne sait pas. D'ailleurs, ils avaient initié beaucoup de prières pour les morts. Encore aujourd'hui, dans le judaïsme, on prie pour les morts. On prie pour leur salut, pour qu'ils soient sauvés. Alors que la Bible interdit la prière pour les morts. Ils ont utilisé un livre apocryphe qui s'appelle le livre des Maccabées, entre autres, hein. Et l'Église de Rome a aussi repris cette prière pour les morts, avec l'idée d'un purgatoire. Mais il n'y a pas de purgatoire dans les Écritures. Il n'y a pas de prière pour les morts. Quand on est mort, c'est terminé. On est déjà dans sa destination finale, soit au ciel, soit dans la perdition éternelle. C'est avant la mort qu'il faut être sauvé. Et on peut avoir cette certitude avant la mort qu'on est sauvé par cette ancre de l'âme. L'espérance dans la Bible, ce n'est pas juste j'espère, peut-être. L'espérance est une certitude. Christ a déchiré le voile pour toujours. Il est notre souverain sacrificateur. Il est en même temps l'agneau. C'est ça qui est extraordinaire avec Christ. Il est celui qui verse son sang et il est en même temps celui qui rentre dans la présence de Dieu pour nous. Alors celui qui croit en Jésus aujourd'hui possède cette certitude. Il a un accès libre à la présence de Dieu, du Dieu saint, parce que ses péchés sont pardonnés. Il ne sera plus condamné. Laissez-moi vous lire Romains 8, verset 1, qui le dit d'une façon absolue et claire. Romains 8, Paul aux Romains, verset 8, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette expression d'être en Jésus-Christ, c'est comme ça que disaient les chrétiens de l'époque. Aujourd'hui, on dit « est-ce que tu es chrétien ?» Mais eux, ils ne disaient pas ça. « Est-ce que tu es en Jésus-Christ ?» Et je trouve ça beaucoup plus clair et profond. Aujourd'hui, le mot « chrétien », c'est très galvaudé, hein. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens, franchement, on se demande d'où ils ont tiré ça, hein. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est en Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, par la foi, qui est en relation, qui connaît Jésus-Christ, et qui a été sauvé par Jésus-Christ. Et donc, il n'y a plus de condamnation. Est-ce que vous avez cette certitude? Si vous mouriez subitement, est-ce que vous seriez pris dans la présence de Dieu? Ou est-ce que vous seriez condamné? Eh bien, vous pouvez avoir la certitude. Vous pouvez avoir cette ancre. C'est par la foi qu'on le reçoit. La foi, c'est quoi? C'est accepter ce que Dieu dit dans la Bible. Accepter sa promesse. Il a dit, celui qui croit en Jésus-Christ recevra le pardon de ses péchés. Il sera pardonné de tous ses péchés. Celui qui croit en Jésus-Christ ne sera plus condamné Attention, condamné par Dieu. Parce que si vous volez ou si vous tuez quelqu'un, vous serez condamné, ça c'est sûr. Hein? Mais il ne sera plus condamné devant le jugement dernier, le fameux grand trône blanc dont parle le livre de l'Apocalypse. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, d'avoir cette espérance vivante. La mort est vaincue, la mort est terrassée, elle ne nous fait plus peur, le voile est déchiré par la puissance de Dieu. Et un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui sait que s'il meurt, il continue à vivre avec Dieu. Est-ce que vous êtes un vrai chrétien? Est-ce que vous avez cette certitude? Est-ce que vous avez reçu le Seigneur? Eh bien, je l'espère que vous avez cette encre merveilleuse qui soutient notre vie, parce que la vie n'est pas toujours facile. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, beaucoup de soucis. Mais quand on a cette encre, ça rassure. Vous savez, quand vous avez une tempête qui se lève et vous êtes sur un petit esquif, un petit voilier ou un petit bateau à moteur, vous êtes content d'avoir votre encre et de pouvoir trouver un endroit calme et de jeter l'encre là. Et c'est une paix pour nous qui croyons, de savoir que même si le monde allait se renverser, nous serions dans la main de Dieu, nous serions protégés, sauvés, pardonnés. On va avoir un mot de prière, et puis après on va chanter les strophes suivantes.